Chapitre 3. Séparation. Le vif est une basse magie qui afflige le plus souvent les enfants d'une maison mal tenue. On y voit souvent le résultat du contact fréquent avec des bêtes, mais cette ignoble magie possède d'autres origines. Le parent avisé ne permettra pas à son enfant de jouer avec des chiots ou des chatons non sevrés, ni de dormir au même endroit qu'un animal. L'esprit de l'enfant, quand il est plongé dans le sommeil, est extrêmement vulnérable à l'invasion des rêves d'une bête, et donc très susceptible de choisir le langage d'un animal comme langue de cœur. Souvent, cette immonde magie touche plusieurs générations d'une même maisonnée aux habitudes viles, mais il arrive qu'un enfant doué du vif apparaisse dans une famille du meilleur sang. Quand cela se produit, les parents doivent s'endurcir et faire le nécessaire pour le bien de tous les enfants de la famille. Il faut aussi qu'ils enquêtent parmi leurs domestiques pour découvrir qui est à l'origine, par malveillance ou négligence, de cette contagion et traiter le coupable en conséquence. Des maladies et afflictions de Sarcogin. Peu avant que les premiers oiseaux de l'aube se mettent à chanter, heure se rassoupit. Je demeurai un petit moment près du feu à le regarder. L'angoisse s'était effacée de ses traits. C'était un garçon calme et simple que les conflits avaient toujours mis mal à l'aise. Il n'était pas fait pour le secret. Je me réjouissais que le fait de m'avoir prévenu du mariage d'Astérie lui ait rendu sa sérénité. Le chemin que j'allais devoir emprunter pour gagner la paix serait beaucoup plus accidenté. Quand je le quittais, il dormait sous le soleil du matin à côté du feu. « Surveille-le, » dis-je à œil de nuit. Je percevais la douleur qui vrillait la croupe du loup, écho de l'élancement incessant de ma cicatrice dans le dos. Dormir à la belle étoile n'était plus une partie de plaisir pour nous. Pourtant, j'aurais préféré me coucher sur la terre froide et humide plutôt que rentrer à la chaumière pour y affronter Astérie. Mais mieux vaut tôt que tard, en général, me dis-je, quand il faut faire face aux désagréments, et, à petits pas de vieillard, je retournai chez moi. Je fis halte au poulailler pour ramasser des œufs. Mes pensionnaires étaient déjà occupés à gratter le sol. Le coq bondit sur le toit que je venais de réparer, agita deux fois ses ailes et poussa un vigoureux cocorico. C'était le matin. Un matin que je redoutais. Dans la maison, je tisonnai le feu pour le ranimer et mis les œufs à bouillir. Puis je sortis ma dernière miche de pain, le fromage qu'avait apporté Ambre et des herbes à tisane. Astérie n'était pas une lève-tôt. J'avais donc tout mon temps pour réfléchir à ce que j'allais dire et à ce que j'allais taire. Tandis que je rangeais la pièce, ce qui consistait surtout à ramasser les affaires de la ménestrelle disséminées çà et là, mon esprit revint sur les années que nous avions partagées. Nous nous connaissions intimement depuis plus d'une décennie. Ou plutôt, moi, je croyais la connaître. Puis, je me traitais de menteur. Je la connaissais bel et bien. Je pris sa cape jetée sur le fauteuil et sentis son parfum dans la laine de bonne qualité du vêtement. D'excellente qualité même, jugeais-je. Son époux ne se moquait certes pas d'elle. Le plus dur dans cette affaire était que l'attitude d'Astérie ne m'étonnait pas. Je n'avais honte que de moi-même, de ne pas l'avoir prévu. Pendant 6 ans après la purification de serre, j'avais vagabondé seul par le monde. Je n'étais entré en contact avec personne qui m'eût connu à Castelserre. Je considérais comme morte mon existence de loin-voyant, de bâtard du prince chevalerie, d'apprenti assassin d'Imbre. J'étais devenu Tom Blaireau, et je m'étais coulé sans regret dans cette nouvelle identité. Comme j'en rêvais depuis longtemps, j'avais voyagé, et je ne partageais mes décisions qu'avec mon loup. J'avais trouvé une sorte de paix avec moi-même. Je ne veux pas dire que les personnes que j'avais aimées à Castelserre ne me manquaient pas. Leur absence me torturait parfois terriblement, mais, en me coupant d'elles, j'avais découvert une liberté vis-à-vis de mon passé. Un affamé peut rêver de viande chaude, nageant dans la sauce, sans pour autant dédaigner les plaisirs simples du pain et du fromage. je m'étais construit une nouvelle vie et, si je n'y trouvais pas toutes les douceurs de l'ancienne, elle m'apportait les joies innocentes qui m'avaient longtemps été interdites. J'étais satisfait. Et puis, par un matin brumeux, environ un an après mon installation dans la chaumière près des ruines de Forges, le loup et moi étions revenus de la chasse pour trouver le changement qui nous attendait en embuscade. Je portais sur mes épaules un cerf de l'année, et sous son poids, ma vieille blessure dans le dos m'élançait. Alors que je débattais en moi-même pour décider si le luxe d'une longue immersion dans un bain chaud valait de me fatiguer à tirer de l'eau du ruisseau, puis d'attendre qu'elle chauffe, j'avais entendu le bruit, reconnaissable entre tous, d'un sabot ferré contre un caillou. J'avais déposé ma proie sur le sol, puis Œil de Nuit et moi avions fait le tour de la maison, discrètement et à distance prudente. Nous n'avions vu qu'un cheval, encore scellé, attaché à un arbre près de ma porte. Son propriétaire était sans doute entré chez nous. La monture, une jument, avait agité les oreilles quand nous nous étions approchés avec précaution, consciente de ma présence, mais pas encore certaine qu'elle avait lieu de s'inquiéter. « Reste en retrait, mon frère. Si elle sent l'odeur d'un loup, elle va se mettre à hennir. En revanche, si je fais vite, j'arriverai peut-être à m'approcher assez pour jeter un coup d'œil dans la maison avant qu'elle ne donne l'alarme. » Silencieux comme le brouillard qui nous enveloppait, Œil de Nuit s'était retiré au milieu d'un tourbillon gris. Je m'étais alors rendu à l'arrière de la chaumière, puis laissé glisser jusqu'à ce que le mur m'arrête, et j'avais entendu l'intrus. Un voleur ? J'avais perçu un bruit de vaisselle entrechoqué, puis celui de l'eau qu'on verse dans un récipient. Un coup sourd m'avait appris qu'on venait de jeter une bûche dans le feu. J'avais froncé les sourcils, perplexe. L'individu qui avait pénétré chez moi prenait manifestement ses aises. Un instant après, une voix avait entonné le refrain d'une vieille chanson et mon cœur avait fait un bond dans ma poitrine. Malgré les années écoulées, j'avais reconnu le timbre d'Astérie. « La chienne qui hurle ?» avait confirmé Œil de Nuit, qui avait détecté son odeur. Comme toujours, j'avais fait la grimace en songeant à la façon dont le loup voyait la ménestrelle. « Laisse-moi entrer le premier. » J'avais identifié ma visiteuse, mais j'étais tout de même resté sur mes gardes en me dirigeant vers la porte. Elle ne se trouvait pas chez moi par hasard. Elle m'avait cherché. Pourquoi ? Qu'attendait-elle de moi ? Astérie, avais-je dit en ouvrant la porte. Elle s'était tournée vers moi d'un bloc, une tisanière à la main. Elle m'avait rapidement examiné du regard, puis ses yeux avaient croisé les miens. Et elle s'était exclamée d'un ton ravi. « Fitz !» avant de courir vers moi. Elle m'avait serré contre elle, et au bout d'un moment, j'avais moi aussi refermé mes bras sur elle. Son étreinte était vigoureuse, comme la plupart des serviennes. Elle était petite, avec un teint foncé et des cheveux noirs, mais j'avais senti toute la force nerveuse qui se cachait en elle. « Bonjour », avais-je fait d'un ton hésitant, les yeux baissés sur le sommet de son crâne. Elle avait levé les yeux vers moi. « Bonjour », avait-elle répété interloquée, puis elle avait éclaté de rire devant mon expression. « Bonjour !» Sans me lâcher, elle s'était écartée de moi pour poser la tisanière sur la table, puis elle avait pris mon visage entre ses mains et l'avait attiré vers le sien. Il faisait froid et humide dehors, là d'où je venais, et le contraste avec ses lèvres chaudes m'avait laissé abasourdi, autant que le fait de tenir une femme entre mes bras. Elle se serrait contre moi, et c'était comme si la vie elle-même m'étreignait à nouveau. Son parfum me montait au cerveau, je sentais une chaleur m'envahir des pieds à la tête et mon cœur battre la chamade. J'avais décollé mes lèvres des siennes. Astérie, elle m'avait interrompu avec fermeté. Non. Elle avait jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, puis m'avait pris par les mains et entraîné dans l'alcôve où je dormais ordinairement. Je l'avais suivi d'un pas titubant, ivre d'étonnement. Près de mon lit, elle avait déboutonné son corsage et, comme je restais les bras ballants à la regarder, elle avait éclaté de rire et entrepris de déboutonner ma chemise. « Ne dis rien encore », avait-elle soufflé. Sur quoi, Elle s'était emparée de ma main glacée pour la poser sur son sein dénudé. À cet instant, Œil de Nuit avait poussé la porte et pénétré dans la chaumine au milieu d'un tourbillon de brouillard gris. L'espace d'un moment, il s'était contenté de nous contempler, puis il s'était ébroué, et ça avait été au tour d'Astérie de se figer.
« Le loup.
J'avais presque oublié, tu l'as encore ?»« Nous sommes toujours ensemble, naturellement. » J'avais voulu retirer ma main de sa poitrine, mais elle m'en avait empêché. « Il ne me dérange pas, enfin je crois. » Elle avait eu l'air mal à l'aise. « Mais est-ce qu'il est obligé de rester dans la maison ?» Œil de Nuit s'était ébroué de nouveau, puis il avait regardé Astérie avant de détourner les yeux. Le froid qui régnait dans la pièce ne provenait pas seulement de la porte ouverte. « La viande va être glacée et dure si je t'attends. »« Eh bien, ne m'attends pas, » avais-je répondu sèchement. Il était ressorti dans le brouillard et je l'avais senti nous fermer son esprit. Par jalousie ou par courtoisie, je n'en savais rien. J'étais allé refermer la porte, puis j'étais demeuré là, troublé par la réaction d'Œil de Nuit. Les bras d'Astérie m'avaient enlacé par derrière, et quand je m'étais retourné vers elle, je l'avais découverte nue, offerte. Je n'avais pas réfléchi. Nous nous étions unis comme la nuit s'unit à la terre. En me remémorant cet épisode, je me demandais si Astérie l'avait prémédité. Non, sans doute. Elle s'était appropriée cet aspect de mon existence sans y accorder davantage de réflexion que si elle avait cueilli une baie sur le bord de la route. Elle était là. Elle était savoureuse. Pourquoi ne pas en profiter? Nous étions devenus amants sans déclaration d'amour, comme si nos ébats étaient inévitables. Étais-je amoureux d'elle aujourd'hui après toutes les années où elle n'avait cessé d'entrer dans ma vie pour en ressortir peu après? L'amour, l'honneur, le devoir. J'aimais Molly. Molly m'aimait-elle? L'aimais-je plus que mon roi? Comptait-elle plus à mes yeux que mon devoir? Adolescent, je m'étais torturé l'esprit avec ces questions. Mais, avec Astérie, je ne me les étais jamais posées jusque-là. Cependant, comme autrefois, les réponses m'échappaient. Je l'aimais non comme une personne que j'aurais choisie avec soin pour partager ma vie, mais comme une partie familière de mon existence. Si je la perdais, ce serait comme si je perdais l'âtre de ma chaumière. J'avais fini par prendre l'habitude de sa chaleur intermittente. Pourtant, je le savais. Je devais lui annoncer qu'il m'était impossible de continuer comme avant. L'angoisse que j'éprouvais me rappela combien le temps m'avait paru long et à quel point j'avais dû endurcir mon esprit avant que le guérisseur m'arrache la pointe de flèche du dos. Je ressentais la même appréhension, la même tension des muscles à l'idée d'une grande souffrance à venir. Je sus qu'elle se réveillait au bruissement des couvertures, puis j'entendis son pas léger derrière moi. Sans me retourner, je continuai à verser l'eau bouillante sur les herbes à tisane. Je me trouvais soudain dans l'incapacité de lui parler. Elle ne s'approcha pas de moi, ne me toucha pas. Au bout d'un moment, elle déclara « Alors, Heure t'a tout raconté. » « Oui, » avouai-je d'un ton égal. « Et tu as décidé de laisser ce qu'il t'a dit tout gâché entre nous. » Je ne vis pas que répondre. Je sentis la colère poindre dans sa voix. Tu as changé d'identité, mais au bout de tant d'années, tu n'as pas changé de personnalité. Tom Blaireau est aussi prude et guindé que Fitz-Chevalerie loin-voyant. Attention, Astérie. Fis-je d'un ton d'avertissement, non pas à cause de son humeur, mais du nom qu'elle avait employé. Nous avions toujours pris grand soin de ne me présenter à Heure que sous l'identité de Tom. Si la ménestrelle avait prononcé tout haut mon véritable nom, ce n'était pas par accident, mais pour me rappeler qu'elle connaissait mes secrets. « Ne t'inquiète pas, » répondit-elle. Mais le couteau, même au fourreau, restait là. « Je me contente de te remettre à l'esprit que tu mènes une double vie et que tu t'en sors très bien. Pourquoi me refuser le même droit ? Parce que je ne partage pas ton point de vue. Je n'ai qu'une seule existence, et elle est ici et maintenant. Je m'efforce simplement de traiter ton mari comme je voudrais qu'un autre me traite, dans le même cas. Tu ne vas tout de même pas me prétendre qu'il est au courant de notre liaison et que ça lui est égal. Bien au contraire, il ignore tout, par conséquent ça lui est égal. Si tu réfléchis bien, tu t'apercevras que ça revient exactement au même. Pas à mes yeux. C'était pourtant le cas avant que Heur juge nécessaire de tout gâcher. Tu as transmis ta morale rigide à ce jeune homme. J'espère que tu es fier de savoir que ton éducation a donné naissance à un autre père la vertu comme toi, toujours prêt à juger les autres au nom de sa pudibonderie. Ces paroles étaient autant de soufflets qu'elle m'assénait. Elle se mit à faire le tour de la pièce pour ramasser ses affaires et je me tournai vers elle. Elle avait les pommettes très rouges et elle était encore dépeignée de la nuit passée. Elle était seulement vêtue de ma chemise dont l'ourlet lui arrivait à mi-cuisse. Elle s'arrêta et me rendit mon regard, puis elle redressa le buste comme pour s'assurer que je voyais bien tout ce que je rejetais. « Quel mal faisons-nous ? » demanda-t-elle d'une voix tendue. « Ton mari en souffrira si jamais il apprend ce qu'il y a entre nous, » dis-je. Heur m'a laissé entendre qu'il s'agit d'un noble. Les ragots peuvent blesser ce genre d'homme plus profondément qu'un poignard. Songe à son honneur, à celui de sa maison. Évite qu'il passe pour un vieux barbon qui s'est amouraché d'une jeune femme pleine de vie. « Un vieux barbon ?» Elle parut étonnée. « Heur t'a dit qu'il était vieux ?» Je me sentis perdre pied. Il l'a décrit comme quelqu'un plein de dignité. Plein de dignité, certes, mais sûrement pas vieux. « Loin de là ?» Elle eut un sourire singulier où se mêlaient l'orgueil et l'embarras. « Il a 24 ans, Fitz. C'est un excellent danseur et il est fort comme un jeune taureau. Qu'imaginais-tu ? Que je m'étais vendu pour réchauffer le lit d'un seigneur décrépit ?» C'était en effet l'idée qui m'était venue. Je croyais. Elle m'interrompit d'un ton provoquant, comme si je l'avais rabaissé. « Il est beau ?» Il est charmant, il n'avait que l'embarras du choix pour décider qui épouser, et c'est moi qui l'a choisi. À ma façon, je l'aime vraiment. Avec lui, j'ai l'impression de rajeunir, d'être désirable et capable de passion. Et avec moi, quelle impression avais-tu ? Demandai-je malgré moi, la voix basse. Je donnais le fouet pour me faire battre, je le savais, mais je n'avais pas pu retenir ma question. Astérie resta un moment interloquée. « Je me sentais bien, » répondit-elle enfin, sans égard pour mes sentiments. « Accepté, estimé. » Elle sourit soudain et son expression me fit mal. « Généreuse aussi, car je te donnais ce que nul autre ne voulait t'offrir. Aventureuse, ancrée dans le monde, comme un oiseau chanteur aux couleurs vives qui venait voir un petit roitelet au fond des bois. « C'est vrai, » reconnus-je. Je détournai les yeux vers la fenêtre. Mais c'est fini, Astérie, pour toujours. Tu considères peut-être mon existence comme misérable, mais c'est la mienne. Je refuse de picorer les miettes tombées de la table d'un autre. Il me reste au moins cet orgueil-là. Tu n'as pas les moyens de cet orgueil, répondit-elle sans embâge. Elle écarta les mèches de cheveux qui lui tombaient sur le visage. Regarde ce qui t'entoure, Fitz. En une dizaine d'années, qu'as-tu acquis ? Une chaumière au milieu des bois et quelques poules ? Qui apporte du piment, de la chaleur, de la douceur dans ta vie ? Moi, et personne d'autre. De mon point de vue, cela ne représente peut-être qu'un jour ou deux de temps à autre, mais pour toi, je suis la seule véritable présence de ton existence. Elle durcit le ton. Picorer les miettes tombées de la table d'un autre vaut mieux que crever de faim. Tu as besoin de moi. Tu oublies Heur et Œil de Nuit. Fiche d'un ton glacial. Elle eut un geste dédaigneux. Un orphelin que je t'ai amené et un vieux loup décrépit. Non seulement je me sentis offensé de l'entendre déprécier ainsi mes compagnons, Mais cela me contraignit à ouvrir les yeux sur l'abîme qui séparait notre façon de percevoir l'existence. Si nous avions vécu ensemble, jour après jour, ces désaccords se seraient manifestés, je suppose, depuis longtemps. Mais les brefs moments que nous avions partagés n'étaient pas consacrés aux discussions philosophiques, ni même aux considérations pratiques. Nous nous retrouvions quand bon lui semblait, et faisions alors table et lit commun. Elle avait couché, mangé, chanté chez moi, et m'avait regardé accomplir les tâches d'une vie qui n'était pas la sienne. Les petits différends qui surgissaient entre nous étaient oubliés d'une visite à l'autre. Elle m'avait confié heure, comme elle l'aurait fait d'un chaton perdu, et depuis, elle ne s'était pas souciée de la relation qui s'était développée entre lui et moi. Notre dispute ne mettait pas seulement un point final à notre intimité. Elle révélait aussi que nous n'avions guère de choses en commun, finalement. Je m'en sentis doublement anéanti, et des paroles amères me revinrent d'une vie disparue. Le fou m'avait prévenu.
Elle n'éprouve aucune affection réelle pour Fitz, sache-le, elle tient uniquement à pouvoir dire qu'elle a connu Fitz Chevalerie.
Peut-être était-ce encore exact, malgré toutes les années où elle et moi nous étions croisés. Je me tus par crainte des paroles que je risquais de prononcer. Astérie, elle, dut croire que mon silence indiquait une résolution vacillante, et elle me sourit d'un air las.
Ah, Fitz, nous avons besoin l'un de l'autre pour des motifs que nous n'aimons pas à reconnaître.
Elle poussa un léger soupir. Prépare le petit déjeuner. Je vais m'habiller.
On voit tout en noir le matin quand on a le ventre vide.
Et elle quitta la pièce. Saisi d'une patience fataliste, je dressai la table pendant qu'elle se vêtait. Je savais que ma décision était prise. C'était comme si ce que Heur m'avait appris la nuit précédente avait soufflé une bougie en moi, et mes sentiments envers Astérie avaient changé du tout au tout. Nous nous assîmes ensemble, devant le petit déjeuner, et elle s'efforça de faire comme si de rien n'était. Mais je ne cessais de me répéter. C'est sans doute la dernière fois que je la vois faire tourner sa tisane dans son bol pour la faire refroidir, ou agiter sa tartine pour souligner ses propos. Je la laissai parler, et elle s'en tint à des banalités, s'efforçant de m'intéresser à ses prochaines destinations ou à la tenue de dame amitié en certaines occasions. Mais plus elle bavardait, plus elle me paraissait s'éloigner, et j'éprouvais en la regardant l'impression très étrange d'avoir omis ou manqué quelque chose. Elle se coupa une nouvelle tranche de fromage qu'elle mangea avec du pain. Soudain, je compris, et j'eus la sensation qu'une goutte d'eau glacée coulait le long de mon dos. J'interrompis Astérie. Tu savais qu'Imbre allait venir me voir. Avec une fraction de seconde de retard, elle leva les sourcils d'un air surpris.
Imbre ? Ici ?
Je possédais encore des habitudes mentales dont je croyais m'être débarrassé, des façons de réfléchir qu'un mentor m'avait laborieusement enseignées pendant mes jeunes années, entre le crépuscule et l'aube. C'était une manière de passer les faits au crible et de les assembler. Une formation qui permettait à l'esprit d'emprunter des raccourcis pour aboutir à des conclusions qui n'étaient pas de simples conjectures. Une banale observation. Astérie n'avait eu aucune réaction devant le fromage. Or, cette denrée était un luxe pour Heur et moi, surtout un fromage de cette qualité, affiné à cœur. Elle aurait dû trouver incongru d'en voir sur ma table et, la veille au soir, de boire de l'eau de vie de bord des sables. Mais non, parce qu'elle s'y attendait. J'éprouvais une stupéfaction et un plaisir mêlé d'horreur devant la rapidité de mon esprit à relier un élément à un autre, jusqu'au moment où je contemplais le tableau inévitable que formaient les faits. Jusqu'ici, tu n'avais jamais proposé d'emmener Heur en balade. Tu lui as offert de t'accompagner à Castelserre pour permettre à Imbre de me voir seul. J'en tirai une conclusion possible qui me glaça les os. Au cas où il devrait me tuer, afin qu'il n'y ait pas de témoin.
« Fitz !»
s'exclama-t-elle, à la fois furieuse et atterrée. C'est à peine si je l'entendis. Une fois que les cailloux de la pensée avaient commencé à rouler, l'avalanche de conclusions était inéluctable. Toutes ces années, toutes tes visites, tu me surveillais pour lui, n'est-ce pas ? Dis-moi, Allais-tu aussi jeter un coup d'œil sur Burick et Horty plusieurs fois par an ? Elle me regarda froidement, sans rien nier. J'ai dû chercher où ils habitaient pour confier les chevaux à Burick. C'est toi-même qui me l'avais demandé. Oui. Je réfléchissais à toute allure. Les chevaux devaient lui avoir fourni un excellent prétexte pour se présenter à Burick. Il aurait refusé tout autre présent, mais Rousseau lui appartenait de droit. C'était un cadeau de vérité. À l'époque, Astérie lui avait dit que la reine lui envoyait aussi le poulain de suie en remerciement des services qu'il avait rendus aux loin-voyants. J'attendis la suite sans la quitter des yeux. C'était une ménestrelle, et donc une bavarde impénitente. Il suffisait que je me taise et la laisse parler. Elle posa son morceau de pain sur la table. Quand je suis dans la région, je vais les voir, c'est vrai. Et quand je retourne à Castelserre et qu'Imbre sait que je leur ai rendu visite, ils me demandent de leurs nouvelles, tout comme ils demandent des tiennes. Et le fou, sais-tu aussi où il se trouve aujourd'hui ? Non. Le laconisme de sa réponse me convainquit qu'elle ne mentait pas. Mais dans le métier qu'elle exerçait, la force d'un secret réside toujours dans le fait de le révéler. Aussi, ne put-elle s'empêcher d'ajouter « Mais je pense que Burick le sait, lui. Lors d'une ou deux de mes visites, j'ai vu traîner des jouets d'une qualité bien supérieure à ce qu'il pourrait offrir à Horty. L'un d'eux était une poupée qui m'a beaucoup rappelé les marionnettes du fou. Une autre fois, j'ai remarqué un chapelet de perles en bois dont chacune était gravée d'un petit visage. » Ces révélations éveillaient mon intérêt, mais je n'en laissais rien paraître dans mon regard, et je posais franchement la question que je considérais comme primordiale. Pourquoi Imbre verrait-il en moi une menace pour les loin-voyants ? Je sais que c'est le seul motif qui pourrait l'inciter à penser qu'il doit m'éliminer. Les traits d'Astérie prirent une expression proche de la pitié. « Tu es vraiment convaincu de ce que tu dis, n'est-ce pas ? Tu crois qu'Imbre serait prêt à te tuer ? Et que j'accepterais de l'aider en éloignant le garçon ? Je connais Imbre. Et il te connaît lui aussi. » Elle avait pris un ton accusateur. Un jour, il m'a expliqué que tu étais incapable de te fier entièrement à quelqu'un, que ton âme serait toujours déchirée entre l'envie et la crainte de faire confiance. Non. À mon avis, il voulait simplement te voir en tête à tête afin de te parler en toute liberté. Afin de t'avoir pour lui seul et de voir par lui-même comment tu allais après tes longues années de silence. En bonne ménestrelle, elle savait manier les mots et leur intonation. À l'entendre, en évitant Castelserre, je m'étais montré à la fois grossier et cruel envers mes amis, alors qu'en réalité, c'était une question de survie. « De quoi avez-vous parlé avec Imbre ? » demanda-t-elle d'un air exagérément détaché. Je la regardais sans ciller. « Je pense que tu es au courant, » répondis-je, sans savoir si j'avais tort ou raison. Son expression se modifia, et j'eus l'impression d'entendre tourner les engrenages de son esprit. Ainsi, Imbre ne lui avait pas fait part du but réel de sa visite chez moi. Cependant, elle était intelligente et vive, et elle avait en main nombre des pièces du casse-tête. J'attendis qu'elle le reconstitue. « Le lignage, » dit-elle à mi-voix. « La menace des fidèles du prince Pi. » À de nombreuses reprises dans ma vie, j'ai été pris au dépourvu, et j'ai dû le dissimuler. Mais je crois que c'est cette fois-là que j'ai eu le plus de mal à rester impassible. Astérie poursuivit en scrutant mon visage. « C'est un problème qui mijote depuis quelque temps déjà, et on dirait qu'il arrive aujourd'hui à ébullition. » À la fête du printemps, lors de la nuit des ménestrels, où tous jouent des coudes pour se donner en spectacle devant leur souveraine, l'un d'eux a chanté la vieille ballade qui raconte l'histoire du prince Pi. Tu te la rappelles ? Je me la rappelais. Elle parlait d'une princesse enlevée par un homme doué du vif, qui avait pris l'aspect d'un étalon Pi. Une fois parvenu dans un lieu isolé, il reprenait forme humaine et séduisait la jeune fille. Elle donnait ensuite naissance à un bâtard, tacheté noir et blanc comme son père. Poussé par la malveillance et en usant de félonie, Il montait sur le trône et imposait un règne cruel avec l'assistance d'armées entières de pratiquants du vif. Le royaume souffrait sous sa férule jusqu'au jour où, selon la ballade, son cousin de pur sang loin-voyant ralliait les fils de six nobles à sa cause et au solstice d'été, à l'heure où le soleil se trouvait au zénith et où les pouvoirs du prince Pi étaient les plus faibles, il l'attaquait et le tuait. Il pendait ensuite son corps, puis le découpait en morceaux qu'il brûlait au-dessus d'une rivière afin que le courant emporte son esprit au loin, de crainte qu'il ne trouve refuge dans un animal. La méthode préconisée par la chanson pour se débarrasser du prince Pi était devenue la façon traditionnelle d'éliminer une fois pour toutes une personne douée du vif, et Royal avait éprouvé une profonde déception à ne pas pouvoir m'en faire profiter. « Ce n'est pas ma chanson préférée, » dis-je à mi-voix.
« C'est compréhensible. Cependant, Sleck l'a bien interprété, mais il a obtenu un succès bien supérieur à ce qu'il mérite. » Il chevrotte en fin de note, et certains y perçoivent un surcroît de tendresse, alors que c'est en réalité le signe d'une mauvaise maîtrise de la voix.
Elle s'aperçut soudain qu'elle s'écartait de son sujet. Les gens qui possèdent le vif sont très mal vus en ce moment. On a même inventé des termes pour les désigner, un péjoratif, les vifards, et un mélioratif, les vifiés. Ils s'en inquiètent, et les rumeurs les plus folles circulent un peu partout. Par exemple, j'ai entendu dire que, dans un village où un homme au vif avait été pendu et brûlé, tous les moutons avaient crevé 4 jours plus tard, tombés raides morts dans les prés. Les gens du cru avaient affirmé que c'était la vengeance de la famille de l'homme, mais quand ils avaient voulu à leur tour se venger d'elle, elle avait disparu depuis belle lurette. Ils n'avaient trouvé qu'un parchemin cloué à la porte avec ce message « Vous l'avez mérité, et ce n'est pas le seul incident de ce genre ». Je croisais son regard.
C'est ce que Heur m'a appris, fis-je.
Elle eut un bref hochement de tête, se leva de table et s'éloigna. Ménestrelle jusqu'au bout des ongles, elle avait une histoire à raconter et elle avait besoin pour cela d'une scène, d'un cadre. Bien. Après que Sleck a chanté le prince Pi, un autre ménestrel s'est avancé. Il était très jeune, ce qui explique peut-être sa sottise. Il a ôté sa coiffe devant la reine Kétriken et annoncé qu'à la suite du prince Pi, il allait chanter une autre ballade plus récente. Quand il a affirmé l'avoir entendue pour la première fois dans un hameau de vifiers, un murmure a parcouru l'assistance. Chacun connaît des rumeurs sur de tels lieux, mais jamais je n'ai rencontré quelqu'un qui prétende s'y être rendu. Quand le silence est revenu, il s'est lancé dans une chanson qui ne me disait rien. La mélodie manquait d'originalité, mais les paroles étaient nouvelles pour moi, quoique aussi peu raffinées que sa voix. Elle pencha la tête vers moi et me jeta un regard songeur. Cette ballade avait pour sujet le bâtard de chevalerie. Elle parlait de sa vie avant que ne soit révélée sa souillure du vif. Crois-le ou non, le chanteur avait même eu le toupet d'emprunter un ou deux vers de ma ballade « La tour de l'île de l'Andouillé ». Ensuite, il continuait en affirmant que ce fils des loin-voyants et du lignage, de sang royal et de sang sauvage, n'avait pas péri dans les cachots de l'usurpateur. D'après la ballade, le bâtard avait survécu et il était resté fidèle à la famille de son père. Quand le roi Vérité était parti en quête des anciens, le bâtard était sorti de la tombe pour apporter son aide à son souverain légitime. Le ménestrel a décrit dans une scène impressionnante le bâtard rappelant Vérité des portes de la mort pour lui montrer un jardin de dragons de pierre, dragons que l'on pouvait réveiller afin de défendre les 6 duchés. Cette partie-là, au moins, avait l'accent de la vérité, et je me suis redressé sur mon siège sous le coup de l'étonnement pour entendre la suite, même si la voix du ménestrel commençait à s'érailler. Elle s'interrompit, attendant une réaction de ma part, mais les mots me manquaient. Elle haussa les épaules, puis déclara d'un ton aigre. « Si tu tenais à ce qu'on écrive une chanson sur cette époque, tu aurais pu penser d'abord à moi. Je t'avais accompagné, moi. Les événements décrits dans cette ballade constituaient même le principal motif pour lequel je t'avais suivi. En outre, je suis bien meilleure compositrice que ce gamin. » L'outrage faisait trembler sa voix, et je précisais « Je n'ai aucune part dans cette chanson, tu dois bien t'en douter. » Je regrette qu'on l'ait interprété en public.
« De ce côté-là, tu n'as guère à t'en faire, » dit-elle d'un ton de profonde satisfaction.
Je ne l'avais jamais entendue jusque-là, et je n'en ai eu aucun écho depuis. Elle était mal fichue, la mélodie était en rupture avec le terme, la versification manquait d'unité, le astérie. Bon, d'accord. Il a terminé sur le dénouement héroïque traditionnel, si jamais la couronne des loin voyants l'exigeait, le bâtard au vif, cœur fidèle, volerait au secours du royaume. Quand il a fini, quelques injures ont fusé de la foule, et quelqu'un lui a demandé s'il avait lui-même le vif et s'il était bon à brûler. La reine Kétricaine a imposé le silence, mais à la fin de la soirée, le ménestrel a été le seul de ses collègues à ne pas recevoir de bourse. Je me tue, me retenant d'émettre aucun jugement. Voyant que je ne mordais pas à l'hameçon, Astéry reprit. Il n'a pas été récompensé parce qu'il avait disparu lorsque le moment est venu pour Kétricaine de remercier ceux qui l'avaient diverti. Elle l'a appelé le premier, mais nul ne savait où il était passé. Son nom ne me disait rien. Tag le Jeune. J'aurais pu lui répondre. C'était le fils de Tag, petit-fils de Pillard, et ces deux hommes avaient été des soldats très compétents de la garde de Castelcerf sous vérité. Je remontais les années et revis l'expression de Tag en train de planter un genou en terre devant son roi, dans le jardin de pierre, devant les portes de la mort. Oui, c'était sans doute ainsi qu'il avait compris le phénomène. Vérité avait franchi en sens inverse les portes de la mort pour émerger d'un pilier d'art noir comme la poix, dans la lumière indécise d'un feu de camp. Tag avait reconnu son roi malgré le délabrement de Vérité à la suite des épreuves qu'il avait subies. Il lui avait réaffirmé sa fidélité, et Vérité lui avait donné l'ordre de retourner à Castelcerf, annoncé à tous que le roi légitime allait revenir. Et, en y réfléchissant, j'eus la quasi-certitude que Vérité était parvenue à Castelcerf avant le soldat. Un dragon en vol est beaucoup plus rapide qu'un homme à pied. J'ignorais que Tag m'avait reconnu aussi. Qui aurait pu prévoir qu'il allait raconter cet épisode autour de lui, et surtout qu'il aurait un fils ménestrel. Tu le connais, je vois, fit Astéry à mi-voix. Je me tournai vers elle. Elle scrutait mon visage d'un regard avide. Je soupirai. Tag le Jeune? Non. Ça ne me dit rien. Je repensais simplement à une phrase que tu as prononcée plus tôt. Ceux du vif sont inquiets. Pour quelle raison? Elle leva les sourcils. Je pensais que tu en aurais une meilleure idée que moi. Je mène une existence solitaire, Astéry. Tu le sais bien. Je suis donc très mal placé pour me tenir au courant des dernières nouvelles, en dehors de celles que tu me rapportes. Je la dévisageai à mon tour. Et celle-là, tu ne m'en avais jamais fait part. Elle détourna les yeux, et je m'interrogeai. Avait-elle décidé de son propre chef de me dissimuler la situation? Imbre lui avait-il demandé de ne pas m'en parler? Ou bien la question avait-elle été simplement repoussée dans un coin de son esprit par ses anecdotes sur les nobles devant lesquels elle s'était produite et les louanges qu'elle avait reçues? L'histoire n'a rien de réjouissant. Tout a commencé, je pense, il y a un an et demi, peut-être deux. J'ai eu l'impression alors d'entendre parler plus souvent de vifiés qu'on aurait débusqués et punis, voire tués. Tu sais comment sont les gens, Fitz. Après la guerre contre les pirates rouges, ils devaient être rassasiés de massacres et de sang. Mais quand l'ennemi a enfin été chassé des côtes, qu'on a rebâti sa maison, que les champs se mettent à donner et les troupeaux à croître, eh bien, il est temps de trouver de nouveau à redire sur le voisin. À mon avis, Royal a éveillé dans les six duchés un appétit pour les jeux sanglants avec son cirque du roi et son système de jugement par le combat. Nous libérerons-nous jamais de son héritage? Elle avait mis le doigt sur un vieux cauchemar. Le cirque du roi, à guet de négoce, les bêtes en cage, l'odeur du sang coagulé, la justice rendue l'épée à la main. Tous ces souvenirs me traversèrent comme une lame de fond et me laissèrent au bord de la nausée. Il y a 2 ans. Oui, poursuivit Astéry. Incapable de se contenir, elle arpentait la pièce tout en réfléchissant. C'est à cette époque que l'antique haine envers les gens doués du vif s'est de nouveau embrasée. La reine a pris position publiquement contre cette intolérance, pour ton bien, j'imagine. Mais, tout aimée du peuple qu'elle soit, et malgré les nombreux changements qu'elle a apportés dans le royaume en tant que souveraine, elle ne peut rien contre des traditions aussi profondément ancrées. Dans leur village, les gens se disent « Bah, que peut-elle savoir de nos coutumes, elle qui a grandi dans les montagnes ?» Ainsi, en dépit de son opposition, la chasse aux vifiers a continué comme autrefois. Et puis, à Trénurie, en Bauge, il y a environ un an et demi, s'est produit un incident horrible. Selon l'histoire qui est parvenue à Castelserre, une jeune fille douée du vif possédait un renard, et elle ne se souciait pas de savoir où il allait marauder, tellement que le sang coulait chaque nuit. Je l'interrompis. C'était un renard apprivoisé? Le fait n'est pas courant. Plus suspect encore, la fille en question n'était pas de sang noble ni fortuné. Que faisait donc l'enfant d'un fermier avec un tel animal? Bref, des rumeurs se sont répandues. C'étaient les volailles des villageois proches de Trénurie qui payaient le plus lourd tribut, mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand une bête s'est introduite dans la volière du seigneur d'Auplein et s'est repue de ses oiseaux chanteurs et de ses volatiles importés du désert des pluies. Il a lancé ses veneurs sur la piste de la fille et du renard accusé d'être responsable de ses déprédations, et ils ont été attrapés et amenés sans ménagement devant le seigneur d'Auplein. La fille a juré que son renard n'y était pour rien, qu'elle n'avait pas le vif, mais quand on a appliqué les cautères au renard, on dit qu'elle a hurlé aussi fort que l'animal. Ensuite, pour que la preuve soit incontestable, d'Auplein a fait arracher les ongles des doigts et des orteils de la jeune fille, et comme précédemment, le renard a glapi à l'unisson. Un moment, s'il te plaît. Ces paroles me donnaient le tournis. Je n'imaginais que trop bien la scène. Je vais en terminer rapidement. Ils sont morts de mort lente, mais la nuit suivante, d'autres oiseaux appartenant à d'Auplein ont été tués, et un vieux chasseur a déclaré que le coupable était une belette, qui se contente de boire le sang de ses victimes, et non un renard qui aurait mis les oiseaux en pièces. À mon sens, c'est autant l'injustice de la mort de la jeune fille que la cruauté du seigneur qui ont soulevé les vifiers contre lui. Le lendemain, d'Auplein a failli se faire mordre par son propre chien, et il l'a fait abattre en même temps que son garçon de chenil. Il a ensuite soutenu que, sur son passage dans les écuries, tous ses chevaux prenaient un air affolé, rabattaient les oreilles en arrière et ruaient dans les cloisons des boxes. Il a fait pendre et brûler deux garçons d'écurie au-dessus d'une eau courante. Il s'est mis à prétendre que des essaims de mouches envahissaient ses cuisines, qu'il en retrouvait tous les jours des cadavres dans les plats qu'on lui servait et que... Je secouais la tête. C'est la réaction affolée d'un homme qui n'a pas la conscience en paix. Non, l'œuvre d'aucun vifier que j'ai connu. Astéry haussa les épaules. Quoi qu'il en soit, les villageois ont imploré la justice de la reine après qu'il a fait torturer ou tuer plus d'une dizaine de ses domestiques, alors qu'Étriken a envoyé Imbre sur place. Tiens, tiens. Je me laissais aller contre le dossier de ma chaise et croisais les bras. Le vieil assassin restait donc l'instrument de la justice des loin-voyants. Qui l'avait accompagné pour accomplir les tâches discrètes que requéraient ses missions? Et que s'est-il passé? Demandai-je, comme si je ne le savais pas. Imbre a trouvé une solution toute simple. Au nom de la reine, il a interdit à d'Auplein d'abriter des chevaux, des faucons, des matins, aucune bête, aucun oiseau dans son château. Il n'a pas le droit de monter, de chasser, seul ou au faucon, bref, d'aucune façon. Imbre lui a même défendu, à lui ainsi qu'à tous ceux qui résident chez lui, de manger de la viande ou du poisson une année durant. La vie doit être un peu monotone là-bas. On dit, parmi les ménestrels, que plus personne ne s'invite chez d'Auplein sauf en cas de nécessité absolue, que ses serviteurs sont peu nombreux et revêches, et que les autres nobles le regardent de haut depuis que son hospitalité s'est réduite à une réception rébarbative. Ah! Et puis Imbre l'a aussi obligé à verser l'or du sang non seulement aux familles des serviteurs qu'il avait fait tuer, mais aussi à celle de la fille au renard. Elles l'ont accepté? Celle des domestiques, oui. Ce n'était que justice. Mais celle de la fille au renard avait disparu sans que nul pût dire si ses membres étaient tous morts ou en fuite. Imbre a exigé alors que l'argent fût remis au responsable royal des comptes, afin qu'il reste à la disposition de la famille. Elle haussa les épaules. Cela aurait dû mettre un terme à la situation. Au contraire, depuis lors, les incidents se sont multipliés, et il ne s'agit plus maintenant seulement de battues pour éliminer des pratiquants du vif, mais aussi de la vengeance des vifiers sur leurs bourreaux. Je fronçai les sourcils. Je ne vois pas en quoi l'intervention d'Imbre a pu susciter de nouveaux soulèvements chez ceux du Vif. Il me semble que Dauplin a été sanctionné avec équité.
Plus durement qu'il ne le méritait, ont affirmé certains, mais Imbre est resté inébranlable. Et il ne s'est pas arrêté là. Peu après cette affaire, chacun des six ducs a reçu un document de la reine Quétricaine les informant qu'avoir le Vif n'était pas un délit, sauf si un vifier employait son don à de mauvaises fins. Elle annonçait au duc qu'il devait interdire à leurs nobles et autres seigneurs d'exécuter des pratiquants du Vif, hormis ceux dont les crimes avaient été prouvés aussi sûrement que ceux d'un de leurs sujets ordinaires. Cet édit n'a guère porté ses fruits, comme tu peux t'en douter. Quand on ne s'en passe pas carrément, on trouve toujours d'amples preuves de la culpabilité de l'accusé une fois qu'il est mort. Au lieu d'apaiser les esprits, la déclaration de la reine paraît avoir réveillé toutes les vieilles haines contre ceux du Vif. Quant à ces derniers, elle semble les avoir incités à adopter une attitude de défi. Ils n'acceptent plus sans réagir que quelqu'un de leur sang se fasse exécuter. Parfois, ils se contentent de libérer leur compagnon avant qu'on ait eu le temps de le tuer, mais ils exercent assez souvent des représailles. Chaque fois ou presque qu'un vifier se fait exécuter, les responsables sont victimes d'un désastre. Tout leur bétail crève ou des rapporteurs de maladies mordent leurs enfants. En tout cas, c'est toujours en rapport avec des animaux. Dans un village de pêcheurs, la remonte annuelle ne s'est carrément pas produite. Les filets sont restés vides et les ventres creux. C'est ridicule. On confond coïncidence et malveillance. Ceux du Vif ne possèdent pas les pouvoirs que tu leur prêtes. Je m'exprimais avec assurance. Elle m'adressa un regard de dédain. Alors, pourquoi les fidèles du prince Pi revendiquent-ils ces actes s'ils ne sont pas de leur fait?
Les fidèles du prince Pi? De qui s'agit-il? Elle haussa les épaules.
Nul ne le sait. Ils ne se font jamais annoncer. Ils laissent des messages cloués sur les portes d'auberge ou sur les arbres, et ils envoient des missives aux nobles en chantant toujours le même air avec des paroles différentes. Un tel a été tué injustement, non parce qu'il avait commis un crime, mais simplement parce qu'il possédait la magie du lignage. À présent, vous êtes l'objet de notre courroux, et quand le prince Pi reviendra, il n'aura aucune pitié pour vous. Et c'est signé, non d'un paraphe, mais seulement du dessin d'un étalon Pi. Le peuple est furieux. La reine refuse d'envoyer sa garde traquer ses gens, si bien qu'aujourd'hui il se chuchote parmi la noblesse qu'elle est elle-même responsable de l'augmentation du nombre d'exécutions de vifiers. Le fait qu'elle ait sanctionné le seigneur Dauplin aurait laissé penser à ceux du Vif qu'ils avaient le droit d'exercer leur magie perverse. Devant mon expression soudain renfrognée, elle dit « Une ménestrelle ne fait que répéter ce qu'elle a entendu. Ce n'est pas moi qui lance les rumeurs, ni qui mets les mots dans la bouche des gens. » Elle s'approcha de moi par derrière et posa les mains sur mes épaules. Puis, elle se pencha, la joue contre la mienne. D'une voix douce, elle poursuivit. « Après tant d'années que nous nous connaissons, tu sais certainement que je ne te considère pas comme souillé. » Elle me baisa la joue. Notre conversation m'avait presque fait oublier ma résolution, et je faillis prendre Astérie dans mes bras. Mais, au contraire, je me levai, maladroitement car elle se tenait juste derrière ma chaise, et quand elle voulut se serrer contre moi, j'endurcis mon cœur et tendis le bras pour l'empêcher d'avancer. « Tu n'es pas à moi, » lui dis-je à mi-voix. « Je ne suis pas non plus à lui. » Son regard noir se mit soudain à flamboyer. Je n'appartiens qu'à moi-même, et c'est moi qui décide à qui je me donne. Je ne fais pas de mal en couchant avec vous deux. Je ne risque pas de tomber enceinte. Si un homme pouvait me faire un enfant, il y a belle lurette que cela se serait produit. Alors, quelle importance avec qui je partage mon lit? Elle avait l'esprit agile, et elle maniait les mots beaucoup mieux que moi. Incapable de répondre du tac au tac, je me contentais de lui renvoyer ses propres paroles. Moi aussi, je n'appartiens qu'à moi-même, et c'est moi qui décide à qui je me donne. Or, je refuse de me donner à la femme d'un autre. C'est alors, je pense, qu'elle fut enfin convaincue de ma sincérité. J'avais fait une pile bien nette de ses affaires près de la cheminée. Elle se jeta à genoux devant elle, s'empara de son sac de sel, et se mit à le remplir à gestes rageurs.
Je me demande pourquoi je me suis encombré de toi, marmonna-t-elle entre ses dents. Heur, fidèle à son vrai nom, Malheur, choisit cet instant pour entrer, le loup derrière lui. Devant l'expression furieuse d'Astérie, il se tourna vers moi.
« Est-ce que je dois vous laisser ?»
demanda-t-il sans embâge.
« Non !»
jeta Astérie. « Toi, tu restes. C'est moi qui le mets à la porte. Grand merci, Heur. Tu devrais un peu songer à ce qui te serait arrivé si je t'avais laissé fouiller dans le tas d'ordures de ton village sans m'occuper de toi. C'est de la reconnaissance que je méritais, pas un coup de poignard dans le dos !»
Le garçon écarquilla les yeux. Rien de ce qu'Astérie avait fait jusque-là, pas même le fait qu'elle m'eût menti par omission, rien ne pouvait égaler la colère que je ressentis devant le mal qu'elle lui fit en cet instant. Il me jeta un regard bouleversé, comme s'il s'attendait à ce que je m'en prenne à lui, moi aussi. Puis, il sortit en courant. Œil de Nuit m'adressa un coup d'œil empreint de tristesse, puis fit demi-tour pour suivre Heur.
J'arrive tout de suite, dès que j'en ai fini avec cette affaire. Tu aurais mieux fait de ne pas la commencer.
Je laissai passer le reproche sans réagir, car je n'avais rien de valable à y répondre. Astérie me regardait d'un œil furibond, et alors que je lui rendais l'appareil, je vis comme de la peur passer sur ses traits. Je croisai les bras. « Mieux vaut que tu t'en ailles, » dis-je d'une voix tendue. Son air méfiant me faisait presque aussi mal que le tort qu'elle avait fait à Heur. Je quittai la chaumière pour chercher sa jument, un bel animal équipé d'une belle selle, tous deux cadeaux sans doute du beau jeune homme. La bête perçut l'attention qui m'habitait et ne cessa de piaffer pendant que je serrais ses sangles. Je pris une profonde inspiration afin de me ressaisir, posai la main sur le flanc de la jument et lui transmis de l'apaisement. Je me calmai du même coup, et je caressai l'encolure lisse de l'animal. Il tourna la tête pour fourrer son museau contre ma chemise en soufflant bruyamment. Je soupirai. « Veille sur elle, veux-tu ? La prudence n'est pas sa première vertu. » Je n'avais pas de lien avec la bête, et, à ses oreilles, mes paroles n'étaient que des sons rassurants. Néanmoins, en retour, je sentis qu'elle acceptait ma domination. Je la menai à l'avant de la chaumière et restai là, les rênes dans la main. Quelques instants plus tard, Astérie sortit sous l'auvent.
« Tu es pressé de me voir partir, on dirait !»
fit-elle d'un ton caustique. Elle jeta son paquetage en travers de la selle, faisant sursauter la jument.
« Ce n'est pas vrai, tu le sais très bien, » répondis-je.
Je m'efforçais de conserver un ton calme et uni, car la souffrance que j'avais bridée jusque-là se déchaînait en moi en se mêlant à mon humiliation devant ma propre naïveté et à ma colère d'avoir été manipulé. Notre rapport n'était pas un amour tendre issu du cœur, mais plutôt une amitié qui comprenait le partage de nos corps et la confiance mutuelle qu'implique de dormir dans les bras l'un de l'autre. La trahison d'une amie ne diffère de l'infidélité d'une maîtresse que par le degré et non par le type de douleur qu'on en ressent. Je m'aperçus tout à coup que je venais de mentir à Astérie. J'étais en effet terriblement pressé qu'elle s'en aille. Sa présence était comme une flèche fichée dans ma chair. Tant qu'on ne l'avait pas extraite, on ne pouvait pas soigner la blessure. Je tâchais néanmoins de trouver des mots pour donner quelque sens à ce que nous avions vécu, pour en préserver les bons aspects, mais rien ne me vint. Et pour finir, je restais muet, immobile, tandis qu'Astérie m'arrachait les rênes de la main et se mettait en selle. Elle baissa les yeux vers moi. Elle éprouvait sûrement du chagrin, mais son visage exprimait seulement la colère que j'ai osé contrarier sa volonté. Elle secoua la tête. Tu aurais pu être quelqu'un. Peu importe ta naissance, on t'a donné toutes les chances de gravir les échelons et tu aurais pu devenir un personnage important. Mais non, tu as choisi cette existence-ci. N'oublie jamais ça, c'est toi qui l'as choisi. Là-dessus, elle tira sur les rênes pour obliger sa monture à tourner la tête, pas assez violemment pour lui blesser la bouche, mais plus rudement que nécessaire. Puis, elle la lança au trot et s'éloigna. Je la regardais s'en aller, mais
Elle ne se retourna pas une fois. Malgré mon chagrin, je ne ressentais pas les regrets qu'engendre la fin d'une aventure. J'avais plutôt la prémonition du commencement d'une autre. Un frisson me parcourut, comme si le fou en personne se trouvait tout près de moi et me chuchotait à l'oreille. « Tu ne perçois rien ?
Une rupture, un tourbillon. D'ici, tous les chemins se modifient. »
Je me tournai, mais ne vis personne. J'observais le ciel. Des nuages noirs arrivaient rapidement du sud, et déjà la cime des arbres s'agitait sous les premières rafales de la bourrasque en préparation. Astéri allait entamer son trajet sous une pluie battante. Je fis mon possible pour me persuader que je ne m'en réjouissais pas. Puis, j'allais chercher Heure.